Il est des lieux hors temps où les murs, les pierres résonnent encore des voix passées, où les cyprès semblent être là de tout temps dans la nuit d'un ciel étoilé. Silence du recueillement et cacophonie des siècles, il est des lieux où tout est possible, parler, entendre, écrire, penser, rêver. Pour cette nouvelle émission, nous sommes toujours à Avignon, mais nous avons pris le pont, traversé le Rhône et franchi les quelques kilomètres qui séparent la cité des papes de la Chartreuse des Avignons, qui dit bien son nom puisque le cœur de ce village médiéval est occupé par une série d'églises et de cloîtres fondés par l'ordre des Chartreux. Et ici se joue un spectacle tout à fait étonnant que l'on doit à Solange Oswald et Joël Feuzel. Bonjour Solange Oswald.
Bonjour.
Bonjour Joël Feuzel.
Bonjour.
La mastication des morts, et il se joue dans le cimetière de la Chartreuse, j'ai envie de rajouter, et pour cause.
Absolument, c'était le bel endroit pour créer ce beau texte de Patrick Carman.
Un beau texte qui donne des mots aux morts.
Exactement, qui nous les fait revivre et qui nous les fait réapparaître, comme le théâtre sait le faire.
Spectacle macabre, Solange Oswald, ou rieur ?
Non, pas du tout. D'abord... Le spectacle est créé sur un cimetière lui-même. On s'est aperçu qu'en fait, dans le cloître où on le joue, c'est un cimetière où il y a les ossements des moines. Et ça, on l'a su qu'après. Après, pour vous dire que le spectacle est macabre, pas du tout. Effectivement, ça pourrait être une leçon de ténèbres très sérieuse et très, très religieuse, mais c'est un spectacle qui s'écrit après Beckett. Le ciel est vide, on est dans une espèce de naufrage spirituel, on peut dire, et il va nous raviver la notion de sacré, mais d'une manière très très amusante parce qu'il a beaucoup d'humour, à la Beckett.
On va découvrir, faire causer ces morts imaginées par Patrick Carman, l'auteur du spectacle, vous entendre aussi, mais quelques mots d'abord sur ce monument historique qui est devenu un lieu de création. Bonjour Marianne Clévy.
Bonjour.
Vous dirigez la Chartreuse, qui est donc ce lieu incroyable, magnifique, à quelques kilomètres d'Avignon, mais qui est aussi un centre culturel de rencontre et l'un des premiers en France.
Le premier. Historiquement, le premier. C'est ici que s'est inventé dans les années 70. En 73, nous fêterons l'année prochaine, en 2023, j'espère qu'on se retrouvera, les 50 ans de cette nouvelle vie de la Chartreuse, qui évidemment est d'abord un grand monument et s'est inventé ici avec Bernard Tournoy. Sous l'impulsion, je dois dire, de Rigaud, s'est créé ce centre culturel de rencontre, ce qui veut dire tout simplement lieu de patrimoine qui accueille en son sein la création contemporaine toute l'année.
Donc c'est un lieu de résidence pour des auteurs et essentiellement des auteurs de spectacle, puisque la Chartreuse Les Avignons est le centre national des écritures du spectacle.
Absolument. Dans les années 90, après un moment de fourmillement, de Bernard Tournoy disait la Chartreuse est une lessiveuse de la pensée et pour moi, c'est un des axes que je prends depuis la première année, depuis mon année de direction, ça fait un an, eh bien, elle est devenue le Centre National des Écritures du Spectacle. Ce qui veut dire concrètement, toute l'année, nous recevons des artistes, des auteurs, des compagnies qui viennent ici dans un processus d'écriture qui peut les amener à 15 jours de résidence jusqu'à 2 mois. Une partie d'entre eux sont des artistes internationaux et c'est toute l'année que la Chartreuse vit et à certains événements, mais bien sûr l'été est la rencontre plutôt avec Avignon, avec la performance, avec le spectacle.
Alors c'est un lieu sublime mais assez austère parce que notamment quand les auteurs viennent, ils travaillent dans des cellules de moines.
En fait, les centres culturels de rencontre sont disposés autour de leur réalité architecturale. Ici, nous avions une quarantaine de cellules de moines. Donc, en effet, vous avez raison, Pascal, assez austère. Chacune a un petit jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une petite cellule de 25 mètres carrés ? Eh bien, on travaille à l'écriture. Puis, nous avons une petite dizaine de salles qui ont été petit à petit aménagées pour que des compagnies, des spectacles puissent s'y préparer. Alors, cette austérité, cette enceinte, elle permet, si j'écoute les auteurs, la totale liberté de plonger dans l'imaginaire. Nous sommes des grands accompagnateurs de l'écriture contemporaine. Et puis, ces salles nous permettent aussi d'être le lieu de retrouvailles de tous ceux, associations, voilà, qui travaillent autour des écritures du spectacle.
Alors, il y a bien évidemment les cellules de moines, il y a les chapelles transformées en salles de spectacle, et puis ce cimetière qui est le théâtre de la mastication des morts, qui a été créé ici en 99 et qui est repris donc un peu plus de 20 ans. C'est une pièce de répertoire, Solange Oswald, pour vous maintenant ?
Oui, oui, tout à fait. Puis surtout, elle est très emblématique. Elle nous a mis sur la voie d'une particularité dans l'écriture que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'écriture du fragment. Il y a une espèce de fracture dans les écritures contemporaines qui est ce qu'on appelle le post-dramatique. C'est un mot un peu exagéré, savant. Mais en tout cas, c'est ça. C'est une écriture éclatée en petits fragments. Et le spectateur, évidemment, est obligé de reconstituer ces fragments. Donc, il travaille d'une manière particulière. Et moi, j'étais donc une habituée de ces lectures qui continuent d'ailleurs à se faire. Il y a des journées où les auteurs viennent lire ce qu'ils ont écrit. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai découvert l'écriture de Patrick Kerman, qui, après, m'a mis sur la voie de toujours chercher ces écritures qui demandent la participation du public.
Patrick Kerman, qui a été résident à la Chartreuse et qui, faut-il le rappeler, s'est suicidé ici même dans une des cellules de la Chartreuse, oui, en 2000.
Oui, et c'est une génération qui a été à la fois extrêmement flamboyante, rimbaldienne peut-être. Le lien Beckett que faisait Solange Kerman est un lien très fort qui ensuite s'est peut-être perdu ailleurs. Et pour la Chartreuse, ça a été évidemment un événement traumatique. Mais lorsque Joël et Solange ont sollicité où on proposait l'an passé de reprendre ce spectacle, il me semblait que faire une fin de ce texte-là, là où Kerman a choisi de faire la fin de sa vie, c'était une évidence. Il fallait absolument prendre cette occasion au vol. C'est un lieu ici du symbole et du signe. Donc il faut savoir entendre et écouter les signes, sans mystique aucune. Il faut savoir en faire son terreau, son grain à moudre.
Et ce suicide était une mort programmée, Joël Feuzel.
Notre lecture, c'est 20 ans après qu'effectivement, on peut dire que c'était un projet, puisque nous avons, l'équipe, nous avons reçu une lettre post-mortem de Patrick qui nous disait « Je suis désormais un membre permanent de votre installation, jouez longtemps mes amis ». C'est ce qu'on a fait pour Patrick et voilà, le contrat est rempli.
Solange Oswald, Joël Feuzel, Marianne Clévy, on va prêter l'oreille aux morts, mais s'ils nous écoutent, je leur propose un titre consolateur, « C'est rien », Ben Herbert Larue.
C'est rien. C'est rien qu'un repos salutaire. Rien qu'une pause dans l'inventaire. Rien qu'une fois prendre le temps, être debout dans le présent, c'est rien. Rien qu'une envie de voir la mer, la voir comme unique partenaire, bouffer de l'embrun par les yeux, être sauvage là au milieu, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Tout ira bien. C'est rien. Rien que des poumons qui s'essoufflent. Rien que la mi-temps de la course. C'est rien qu'un besoin de silence. Rien qu'un tout petit mot d'absence qui dit je reviens dans bientôt et c'est pas si loin. Le temps de faire taire le moulin, de regarder depuis là-haut à quoi ressemble le tableau. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Tout tout ira bien.
Ben Herbert Larue, qui est tous les soirs dans le festival Off d'Avignon au théâtre de l'Arrache-Cœur. Solange Oswald, Joël Feussel sont aujourd'hui nos invités pour le spectacle La Mastication des Morts qui se déroule dans le cimetière de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, Centre National des Écritures du Spectacle dirigé par Marianne Clévy. Alors ce spectacle, Joël Feussel, il faut en raconter le dispositif parce qu'on ne rentre pas dans une salle de spectacle, on rentre dans un cimetière et il y a un saisissement.
Effectivement, ça joue sur ce paysage où d'un seul coup, on rentre dans un espèce de cimetière où toutes les tombes sont ouvertes et où on voit les morts, effectivement, qui vont bientôt se mettre à parler. Mais quand on rentre, on les regarde, on fait une circulation et on voit tous ces gisants.
C'est très saisissant, en effet, parce que en arrivant, le premier acteur que j'ai vu avait vraiment l'impression d'être un cadavre. C'est un homme un peu âgé, avec les traits émaciés, le nez osseux, les mains jointes sur l'abdomen, éclairé d'une lumière jaunâtre. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il était mort, que c'était un cadavre. Et puis, il a commencé à murmurer.
Exactement. Ça joue sur ce saisissement. Notre rapport à la mort est toujours de toute façon un saisissement, donc on essaie de le transmettre au spectateur comme ça, une première chose, une première vision, et puis cette parole va venir, et puis ensuite même l'humour va arriver.
Mais qui sont ces morts? Ce ne sont pas les moines du cimetière de la Chartreuse?
Non, ils ont été imaginés par Patrick Herman dans un petit village imaginaire donc qui s'appelle Moret-sur-Raguse, et qui en fait est un petit village qu'on pourrait quand même situer à peu près en France, et dans lequel sont enterrés un siècle d'habitants. Donc, en fait, c'est un cimetière qui a un siècle de langues, de pensées différentes.
D'accent et d'histoire, d'accent. Parce qu'il y a les morts de la Première Guerre mondiale, exactement. Il y a les morts de la Seconde, exactement. Il y a les femmes victimes de féminicide.
Il y a tout.
Des jeunes filles de 20 ans.
Il y a toutes les horreurs, la beauté d'un petit village.
Et chacun raconte une histoire. Et si on veut l'entendre, en fait, on est obligé de se pencher, même de s'asseoir à côté d'eux, comme lorsqu'on veille un mort. Et en tant que spectateur, bien sûr, moi, j'ai pensé à mes morts, à Fred, Monique, Norbert, Michel, Geneviève, Dominique, dans cette proximité qui, finalement, est de plus en plus grande quand, au fil de la vie, on s'approche de plus en plus de la mort.
Oui, et en plus, la pièce, elle pourrait s'appeler Seuil, au fond. Il a écrit une œuvre qui s'appelle Seuil. Et en fait, il s'agit véritablement du trépas. Vous savez, le pas avant la mort, le pas sur le seuil. Et ensuite, il faut en faire un autre, le troisième pas, pour aller dans les limbes ou ailleurs. Et en fait, quand on écoute bien ces récits dans leur construction, ils racontent tous comment ils y sont passés. Ils racontent un peu de leur vie, mais leur dernière pensée. Et en réalité, nous, on a organisé ce qu'on appelle un ressassement, c'est-à-dire ils vont tourner en boucle sur le seuil, la façon qu'ils ont, l'appréhension qu'ils ont d'aller de l'autre côté. Et le ressassement, vous savez, c'est quand on a quelque chose qui nous tourmente et qui ne peut pas s'effacer, comme un disque qui est rayé. Et en fait, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à passer le troisième pas. Et c'est pour ça qu'ils recommencent tout le temps. Et quand on écoute bien, on s'aperçoit qu'en réalité, ils n'ont jamais pensé à la mort. Et c'est d'une façon amusante, hein, je vous dis ça, mais ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas eu les armes spirituelles pour lâcher et se libérer.
Et il raconte toute une série d'histoires.
Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé ici le 17 août à 16h avec 7 coups de couteau.
Le sang a coulé la nuit de mon mariage, à l'âge de mes 23 ans, la nuit où Gilbert Le Tourneux m'a prise, donc. Et mon sang a coulé, et mon sang ne s'est pas arrêté de couler.
Moi sur chaise et poutre sur haineux, et moi enfin, oui, enfin, bousculant chaise, se renversant, puis brimade de chaise renversée, et moi, glissant tombant, moi tombé, mais juste avant sol, moi pendant moi.
Quand j'ai épousé le Maurice à la Libération, maman m'a dit « Tu fais bien, ma petite, tu fais bien, le Maurice est un bon gars. » Et c'est vrai, j'étais heureuse. Hein.
Moi, Giovanni Passol, j'ai passé 20 ans de ma vie à grandir dans les herbes folles, à pêcher dans les ruisseaux les truites argentées, à suivre les papillons aux ailes bleues, à écouter le vent d'Est qui amenait les nuages de pluie.
Les deux gosses, du Youpen, Apfeltruc, Ils sont jamais arrivés à Villard-de-Lans, soi-disant en colo, vu que le Paul Reboul avait passé un coup de téléphone à la Gestapo.
J'étais quand même l'idiote du village. À rester toute la journée dehors sans bouger avec cette mare de bave à mes pieds et à rentrer pour casser tout ce que papa avait rafistolé et à me blottir dans le giron de maman, faut les comprendre.
Un fort détachement au nord du chemin des Dames a été dispersé cette nuit par nos feux. Nous n'avons qu'une victime à déplorer. C'est moi.
D'un corps à l'autre, d'un récit à l'autre, d'un acteur à l'autre, d'un bout du jardin à l'autre, il y a combien de récits dans cette mastication des morts, Solange Oswald ? C'est Joël qui répond.
Je réponds 170 petits récits, donc incarnés par 22 comédiens en simultané. C'est-à-dire qu'en fait, si on écoutait tous les petits monologues qu'il y a, il y aurait 4 heures d'écoute et de théâtre. Et on a un spectacle qui dure 1h30, 1h15.
Donc il faut choisir ses morts et ses récits.
Il faut choisir ses morts.
Sachant qu'il tourne en boucle, il répète continuellement la même histoire, que souvent c'est marqué par un râle ou un dernier soupir. Donc on peut les quitter et on peut les réécouter aussi. Donc, en fait, on n'entend pas forcément tant de récits que cela, parce qu'on s'attache à vos morts.
Bien sûr, et on est pris dans un tiraillement. On quitte des morts, on quitte aussi, quand on prend, on y réfléchit un tout petit peu, des comédiens, parce que ce sont quand même des comédiens aussi. Et il faut quitter tout ça pour éventuellement continuer quelque chose qui nous a conviés, qui s'appelle un spectacle, et où on attend que quelque chose se déroule. Et donc, on va avoir un autre mort, et puis peut-être un autre, et puis en même temps, on se rend compte qu'on est en train de tout louper.
Alors, c'est parfois très drôle. Il y en a une qui dit, par exemple... Je lui avais bien dit à Robert, du sapin, ça m'aurait rappelé les Vosges. Donc elle, c'est sur le choix du cercueil. Il y en a un autre qui dit, oh, bah, ça manque de sexe ici. Et puis alors, j'ai trouvé formidable celui qui dit avoir pleuré d'émotion à son propre enterrement parce qu'il a vu tous ses copains réunis chanter ensemble pour ses obsèques.
Oui, en plus, là, vous parlez des choses légères et drôles, mais il y a des choses carrément gênantes. Parce que Kerman, il s'inscrit dans la tradition, par exemple, de Thomas Bernhard. Vous savez, où Thomas Bernhard, il dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rire qui couvre la peur. » Et moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Il y a des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le théâtre, c'est pas réconciliateur, le théâtre. Normalement, on devrait quitter le spectacle en étant presque mal et ne sachant plus rien. Pour moi, on doit plus savoir quoi penser quand on sort d'un spectacle. Il faut être troublé. Et donc, j'aime beaucoup cette histoire d'aller vers le désagréable parfois.
Assez désagréable, par exemple, que d'entendre ce claquement de dents. Et puis, ces morts de la mastication des morts peuvent aussi se mettre à chanter et à chanter toutes sortes de chansons. Ça peut être les Rolling Stones, ça peut être Au Soleil Mio, mais ça peut être aussi des chansons vives sur les morts-nés.
Nous ne regrettons pas, nous ne regrettons rien, non, nous ne regrettons rien, ni la vie que nous n'avons pas eu, ni la mort que nous avons eue. Nous ne regrettons rien, nous les morts-nés.
Nous sommes si ou là, pas nous sommes pas si, ni là jamais ne serons jamais les chiens.
Nous n'avons pas eu, ni la mort que nous avons eue. Nous ne regrettons rien, nous les morts-nés.
Finalement, est-ce que c'est si terrible de mourir, Solange Oswald, quand on écoute ces morts, de la mastication des morts, quand on lit le texte de Patrick Kerman? Beaucoup disent « ça m'a contrarié, mais pas plus, on est mort, on va pas en faire une histoire ».
Oui, mais c'est justement une langue traumatique. Vous savez, quand on a des traumas, par exemple, on a toutes sortes de réactions. Dans Beckett, la langue, elle est, par exemple, bégayante, ou alors elle est minimum, il n'y a plus de sujet, ou alors on parle énormément, énormément pour cacher la douleur. Donc ce qui est dit est important, mais il n'y a pas que ça, il y a ce qui n'est pas dit. Je pense que derrière, il y a quand même de l'angoisse. Il y a une angoisse dans tous les personnages, même s'ils sont burlesques. C'est-à-dire, non, c'est pas si facile, je pense.
Impression de spectatrice, Marianne Clévy, on peut être directrice de la Chartreuse Les Avignons et en même temps spectatrice du spectacle que vous proposez. Ça vous a mis mal à l'aise? Vous avez été rassurée, inquiète?
Alors, d'abord, Pascal, j'ai été une spectatrice du moment de la création par le groupe Merci, donc il y a quand même un peu plus de 20 ans. Donc cette démarche de venir et d'accepter et d'accueillir, et nous sommes dans un cycle que j'ai voulu sur l'ensemble des rencontres liées à l'hospitalité, cette démarche, elle me semble évidente, et c'est celle d'une spectatrice, mais surtout d'une directrice très, très, très heureuse de poser là un acte qui, dans les premiers temps d'une direction, est un acte à la fois fondateur, un acte de réconciliation, certainement, de la Chartreuse avec elle-même aussi. Et puis, un acte qui, pour toutes les personnes qui sont non seulement des spectateurs, mais certainement des accompagnateurs de la vie théâtrale, important. C'est important de savoir dire dans le spectacle vivant qu'un spectacle vient mourir ici. Parce que, comme je l'ai beaucoup dit longtemps à des étudiants, le spectacle vivant suppose vivant qu'il y ait une mort. Et ce spectacle, on est venu dire il faut qu'il meure. Et c'est joyeux. Et cette danse macabre que nous avons travaillée ensemble depuis 6 mois, avec aussi des amateurs, il faut le dire, qui font partie de cette troupe, des amateurs du village de Villeneuve-les-Avignons, c'est une danse qu'on a accomplie ensemble. Et alors, je voudrais juste rajouter, parce que Solange et Joël pensent qu'il y a encore des ossements dans cet ancien cimetière, j'ai peur que non. Si ça enlève un peu de mystique, tant pis. Il y a eu excavation, il y a eu aménagement de cellules avec eh bien, des toilettes, des trucs et des machins qui font que s'il reste encore une dent d'un moine quelque part, vraiment, c'est malgré eux et c'est malgré nous.
Mais la spectatrice,
spectatrice,
vous êtes rassurée ou vous êtes très inquiète à la sortie du spectacle?
Ah, je suis déplacée. Comme le disait Solange, je suis déplacée parce que l'émotion ne vient pas forcément au moment du spectacle. Il y a une jubilation dans le jeu des acteurs. Et ça, c'est la signature aussi du groupe Merci. Hein. Il y a une jubilation au moment où on est ensemble et on est ensemble dans un plaisir fou. Et puis quand on sort, et vous me demandez, Pascal, quand on sort, c'est là où la mort arrive. C'est là, au moment du silence qui se fait, où là se réfléchit autrement ce qu'on a reçu. L'histoire d'un village de France, le 14-18, mon arrière-grand-père, la guerre, etc. C'est après qu'elle peut avoir lieu.
En tout cas, ce spectacle est très révélateur de l'œuvre de Patrick Herman, auteur contemporain, disparu il y a un peu plus de 20 ans, mais pas forcément très connu, très lu, très partagé. On a cherché des interviews de lui, il y en a très peu. Nous avons retrouvé juste cette interview au micro de Lucien Atoun sur France Culture. Et Patrick Herman parlait d'un de ses précédents textes, de quelque chose vu la nuit.
Je ne crois pas qu'on puisse n'entendre que cette partie jubilatoire de l'écriture, que ce rire, cette cocasserie, c'est forcément un rire très noir, un rire sinistre et qui finalement aboutit à un constat désespéré sur notre société actuelle.
Mais quand vous faites, par exemple, vous parlez d'un univers jonché de cadavres, vous faites ça sérieusement ou avec quand même un peu de recul?
Non. Il n'y a pas de prise directe, si vous voulez, sur l'actualité. Mais c'est une pièce qui, en même temps qu'elle dresse une espèce de constat ou d'état de lieu des écritures contemporaines, renoue avec la question d'Adorno, à savoir comment écrire après Auschwitz, quel genre de fiction élaborer après Auschwitz. Certains ont répondu dans le théâtre, par exemple Beckett a pris parti, a réussi à réécrire après Auschwitz, d'autres ont exploré d'autres voies. Donc là, il s'agit pour ma part d'une démarche assez personnelle, c'est-à-dire je retourne à ce constat, comment écrire après Auschwitz, et je dresse une espèce d'état des lieux, de carte du monde dramatique contemporain, pour essayer ensuite d'en trouver une à privilégier.
Et donc, de quelque chose vu la nuit, est-ce qu'il y a au bout de la nuit l'aube, l'espérance?
Paraît difficile de répondre par l'affirmative. Là.
Eh bien, dites donc, c'est pas gay, comme disait mon voisin.
Ce n'est pas gay, mais il y a toujours l'écriture qui...
Comme échappatoire. Mais par exemple, quand Samprin écrit, il fait un livre justement sur son expérience de déporté à Buchenwald, et il dit l'écriture ou la vie, vous avez l'air de dire l'écriture et la mort.
Oui, je crois. C'est une des seules choses qui nous reste peut-être d'explorer cet aspect-là de l'écriture, là où l'écriture rejoint la mort.
Écrire après Auschwitz, un des récits de la mastication des morts, donne la parole d'ailleurs en voix off à un déporté, le juif Henri Apfelbaum. un nom, une voix, une cheminée qui fume. Aussi nombreux soient les cadavres dans votre spectacle, Solange Oswald, il manque donc des corps.
Ben oui, c'est de l'histoire quand même, ce que citait Patrick à propos d'Adorno, cette espèce d'événement de l'année zéro. En fait, les poètes ne peuvent plus chanter le lyrisme, ne peuvent plus être lyriques, puisque ça n'a pas sauvé du génocide. Et il ne reste rien que des cendres. Et donc, c'est toute son écriture, d'ailleurs, puisque après Auschwitz, on recommence sur les ruines. Voilà, et on ramasse des toutes petites choses. Ce n'est pas une pièce lyrique. En fait, la mastication n'est pas lyrique. Il n'y a pas de transcendance. C'est immanent. Et c'est pour ça, je pense, que j'admirais beaucoup l'exposition de Joël. C'est que tout est étalé, tout est à égalité. Il y a la grande histoire, la petite histoire, il y a les riches, il y a les pauvres. Après la mort, nous serons tous dans l'immanence.
En écoutant Patrick Herman, on sent bien la présence de la mort. On peut même imaginer que son suicide était programmé, qu'il y avait déjà pensé, c'est ce que vous disiez, Marianne Clévy. Et voyons ce spectacle, Joël Fussell. Alors, on pourrait penser à Thriller de Michael Jackson, qui fait se réveiller les morts, mais surtout peut-être aux catacombes de Palerme ou de Naples, où des centaines de corps comme ça momifiés sont exposés. Et voir cela à une époque où la mort est cachée, occultée, oubliée, dans une frénésie de vie, de consommation, d'information, une frénésie tout court. Là aussi, il y a du saisissement. Est-ce que tout n'est que vanité ?
Oui, et puis c'est vrai que c'est une exposition, puisque le théâtre nous permet ça aussi, c'est-à-dire d'exposer ces corps et de les fictionnaliser. Hein. Mais ce qu'il faut se raconter aussi, c'est qu'à la création, cette espèce de campement, la journée, on pouvait le visiter. Et je pense que c'était à ce moment-là qu'effectivement la mort était présente, puisque en fait la mort c'est quand même le vide de l'autre. Et là, le vide, pour le coup, il était assez saisissant aussi.
Donc ils parlent trop en fait, ces morts, pour nous faire croire à la mort.
Ils encombrent le vivant aussi, puisque comment penser, puisqu'ils sont encore là, comment pouvoir justement vivre. Ils sont là, ils occupent le terrain.
Solange Oswald, vous êtes une des comédiennes aussi du spectacle. Je vous ai vue dans votre robe de morte. Est-ce que ça aide à vivre que de faire
ça,
la morte ?
Ça, vous n'auriez pas dû le dire. Non, c'est quand il a fallu faire la mise en scène, qu'il y avait ces 24 comédiens, je ne me sentais pas de jouer avec eux. Il fallait vraiment regarder, concevoir, etc. Et là, la troupe m'a dit, il faut absolument que tu joues. Et voilà, je m'y suis mis. Donc, je suis une des mortes qui dit 4 textes, notamment une que je trouve emblématique. Elle entend une question dans sa tête. Est-ce que tu veux aller mourir ? Et elle a tellement peur qu'elle ne veut pas. La mort, oh non, pas la mort, pas la mort, pas la mort. Et on lui dit, bah alors la vie ? Elle dit, oh non ! Ah non, pas la vie. Ah non, surtout pas la vie que j'ai eue. Alors non, merci.
Non, merci. Votre groupe s'appelle Merci. Merci pourquoi ? Pour ce moment, pour la vie, justement, pour les rencontres, Joël Fussell.
Oui, enfin, en tout cas, merci pour le théâtre, parce que ce nom, il vient d'une installation un peu qui pourrait ressembler un peu, et qui était de Patrick Herman aussi et d'Alain Béard à l'époque, où on faisait parler des ex-voto. Et donc, l'équipe, il y avait 7 comédiens dedans, et ils bouclaient tout le temps sur « merci ». Ils finissaient évidemment tout par « merci ». Et comme on cherchait notre nom, qu'on était un groupe, et qu'on disait « merci », bon, on s'est dit « on va s'appeler groupe Merci », c'est simple.
Merci, merci. Solange Oswald, Joël Fussell, La mastication des morts. Donc, clôt cette 76e édition du Festival d'Avignon. Et puis, c'est donc la mort de ce spectacle qui aura marqué l'histoire du théâtre depuis un peu plus de 20 ans. Qui veut lire le texte ? Il est quand même édité chez Lanceman. Ça peut se préciser. Depuis la Chartreuse, les Avignons, Centre national des écritures du spectacle. Et merci à vous, Marianne Clévy, pour votre accueil. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain, toujours vivant.